VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 15h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. Crise au Burundi, l'Union africaine a appelé aujourd'hui au déploiement d'une force de police internationale au Burundi en conclusion d'un rapport sur les violations des droits de l'homme dans le pays depuis le début de la crise il y a plus d'un an. Fin 2015, l'Union africaine avait préconisé le déploiement d'une force militaire d'interposition de 5000 hommes pour stopper le cycle des violences, mais le projet avait finalement été abandonné devant l'opposition catégorique de Bujumbura et les vives réticences de plusieurs chefs d'État africains. RDC, la justice congolaise a annoncé l'ouverture prochaine d'un procès pour atteinte à la sûreté de l'État contre l'opposant Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidence. Le point avec John Lyndon.
Le sieur Katumbi Chapuis Moïse a été inculpé d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État et placé sous un mandat d'arrêt provisoire, selon le communiqué du parquet général. M. Katumbi, 51 ans, est désormais en attente d'un procès dont la date n'est pas fixée. Le 4 mai, une enquête a été ouverte visant le richissime homme d'affaires pour recrutement de mercenaires après l'arrestation de 4 de ses gardes du corps, dont un Américain. Il s'était rendu à 2 convocations de la justice, mais ne s'était pas présenté à la dernière lundi. Depuis, il a été admis au centre médical de la communauté de Lubumbashi. L'ancien gouverneur du Katanga, passé à l'opposition, a démissionné de ses fonctions à la tête de cette province. Ancien allié du président Joseph Kabila, Katumbi, président propriétaire du célèbre club de football du tout-puissant Mazembe, avait annoncé sa candidature à la présidentielle, censée avoir lieu avant la fin de cette année.
Afrique de l'Ouest maintenant, Mali, 2 humanitaires maliens de l'ONG Médecins du Monde Belgique et leur chauffeur, enlevés jeudi par des hommes armés dans la région de Ménaka, dans le nord-est du pays, ont été libérés. Plus de détails sur la vague de violence dans la région avec Morgane Guiriec.
Les 2 travailleurs maliens de l'ONG Médecins du Monde Belgique avaient été enlevés près de Ménaka par des hommes armés. Leur conducteur, de nationalité malienne, avait également été kidnappé. La veille, mercredi, un véhicule loué par Médecins du Monde Belgique avait été attaqué et saisi par des hommes armés près de Ménaka. Un infirmier et un chauffeur qui se trouvaient à bord avaient réussi à se sauver. Toujours mercredi, 5 casques bleus tchadiens ont été tués et 3 autres grièvement blessés dans une embuscade dans la région de Kidal. À noter aussi que le 16 avril, 3 collaborateurs du comité international de la Croix-Rouge ont été kidnappés à Abeibara, au nord de Kidal, avant d'être relâchés. Leur enlèvement avait été revendiqué par le groupe Ansardine. Les djihadistes ont été en grande partie chassés du nord malien, mais des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères.
Nigeria, l'armée nigériane a annoncé jeudi avoir retrouvé une deuxième rescapée parmi les 219 lycéennes de Chibok kidnappées par le groupe islamiste Boko Haram. Les précisions de Lionel Gaïma.
Selon le porte-parole de l'armée nigériane, le colonel Sani Ousmane, la deuxième otage de Chibok se trouvait parmi 97 femmes et enfants libérés jeudi lors d'une opération conjointe de l'armée et des miliciens aux alentours de Damboa, dans l'état de Borno, dans le nord-est. La jeune fille du nom de Sarah Luka recevait hier des soins médicaux dans une caserne de Biou, dans l'état de Borno. Quelques heures plus tôt, Amina Ali, la première rescapée de Chibok, découverte mardi par des milices locales et par l'armée, est arrivée à Abuja par avion depuis Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno, avec sa mère, Binta, pour rencontrer le président. Au terme de leur rencontre, M. Buhari a assuré que le gouvernement ferait tout ce qu'il peut pour sauver d'autres jeunes filles de Chibok.
Toujours concernant cette affaire, plusieurs responsables d'associations suivant de près la saga des lycéennes de Chibok ont émis des doutes aujourd'hui sur l'identité de la jeune fille présentée jeudi par l'armée nigériane comme une seconde rescapée des captifs de Chibok enlevée en avril 2014 par Boko Haram. Selon Yakubu Nkeki, président de l'association des parents des otages de Chibok, Sarah Luka, la seconde rescapée ne fait pas partie des écolières enlevées par le groupe islamiste. Mais l'armée nigériane maintient sa version des faits et affirme que seul le directeur de l'école ou le gouvernement de l'État de Borno peuvent remettre en cause l'identité de la jeune fille.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Afrique de l'Ouest, plusieurs facteurs contribuent à l'expansion du terrorisme. Il y a la porosité des frontières qui rend difficile la lutte contre ce fléau et aussi les limites en équipement, en ressources financières et en capacité des pays concernés. Alors que la menace s'est longtemps focalisée surtout au Mali, le Burkina Faso n'est plus épargné maintenant. Au micro d'Éric Manirakiza, le politologue au sein de OSIWA, Open Society for West Africa, Mathias Ongpe, donne deux raisons majeures.
Le premier, c'est qu'il faut reconnaître qu'avec le départ du président Compaoré, il y a quand même un besoin d'ajustement des acteurs politiques ou des leaders politiques au Burkina à la manière dont l'ancien gérait des situations de ce genre. Vous savez que sous le président Compaoré, il n'y avait presque pas d'attaque contre le Burkina parce qu'il était à la fois dans des réseaux d'acteurs impliqués dans ce genre d'action et en même temps à l'intérieur, il avait des forces. La deuxième raison, c'est quand même le fait que le Burkina est associé à des actions, que ce soit au niveau régional ou au niveau international, de lutte contre le djihadisme ou l'extrémisme violent. Il y a une sorte d'expansion des actions, du terrorisme maintenant, qui est sorti des pays traditionnellement concernés, à savoir le Mali, par exemple au nord du Mali ou au nord-est du Nigeria, pour s'étendre dans la région, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire, au Niger.
Et est-ce que les armées sur place sont-elles capables de juguler à cette menace djihadiste?
Disons que c'est très difficile. Comme vous le voyez, même dans les pays développés qui disposent de moyens beaucoup plus importants que les nôtres, ce n'est pas simple, c'est encore plus difficile. Les pays essaient quand même, tant qu'ils peuvent, de se protéger. Et je pense que lorsque vous regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on pense quand même que la Côte d'Ivoire a été très réactive lorsqu'il y a eu l'attaque de Bassam il y a quelques semaines. Et je pense que vous regardez un pays comme le Sénégal, je crois que le Sénégal essaie par ses moyens de se protéger. Donc je pense que dans les limites de leurs moyens, ces pays sont capables de raisonnablement se protéger, même s'il doit être reconnu que c'est très difficile pour eux, étant donné la limite des moyens dont ils disposent. Quoi.
Qu'est-ce qui manque selon vous?
Je pense qu'il y a même la question simplement de préparation à ce genre d'attaque. La deuxième chose, c'est simplement les ressources. Vous prenez un pays comme le Niger, il y a 2 ans, et même l'année dernière, on a dû faire beaucoup de collectifs budgétaires. Donc pour réajuster le budget, dégager des moyens. Je vous donne un exemple d'un pays comme le Ghana aujourd'hui, ils ont des problèmes, alors ils savent très bien qu'ils sont un peu aussi pour la menace. Ils ont des problèmes à dégager les ressources nécessaires parce qu'ils sont dans des accords avec le FMI, etc., qui limitent les ressources. Je vais ajouter un dernier élément qui caractérise la région ouest-africaine cette fois-ci. C'est la libre circulation des personnes. Vous savez très bien qu'avec la porosité des frontières chez nous, vous pouvez partir du nord du Nigeria et aller jusqu'au nord du Sénégal en traversant toute l'Afrique de l'Ouest sans que personne ne puisse tracer vos mouvements. Alors que ce n'est pas le cas, même quand en Europe, il y a cette liberté de mouvement, on peut vous suivre facilement. Comme vous le voyez avec les vidéos, pour identifier votre traversée de frontières.
Mathias Ongpe, joint à Dakar, au Sénégal. La disparition de l'avion de ligne égyptien maintenant, l'armée égyptienne a annoncé avoir découvert aujourd'hui en Méditerranée des débris et des effets personnels des passagers de l'appareil. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi avait réclamé hier soir l'intensification des opérations de recherche après des annonces contradictoires sur la localisation de débris qui finalement ne provenaient pas de l'appareil d'Égyptair. Par ailleurs, le chef de la diplomatie française Jean-Marc Ayrault a affirmé qu'il n'y avait absolument aucune indication sur les causes du crash de l'avion pour lequel les autorités égyptiennes ont évoqué un possible acte terroriste. Et puis le pape François va recevoir lundi pour la première fois au Vatican le grand imam d'Al-Azhar au Caire, le cheikh Ahmed Al-Tayeb, considéré comme la plus haute autorité de l'islam sunnite. Cheikh Roumain Dorsil.
L'audience est prévue pour lundi, d'après Federico Lombardi, porte-parole du Vatican. Ce dernier n'a pas donné de précision sur les sujets de discussion. Cette première rencontre de l'histoire entre un pape et un grand imam d'Al-Azhar doit marquer une nouvelle étape après 10 ans de tension. En 2006, le pape Benoît XVI avait semblé lier islam et violence dans un discours à Ratisbonne en Allemagne. La grande institution sunnite du Caire avait réagi avec force après cette prise de position du pontife allemand. Les relations avaient même été interrompues en 2011, puis le dialogue a repris après l'arrivée de François. En mars 2014, Mahmoud Azab, un représentant d'Al-Azhar, a participé au Vatican au lancement d'un réseau de lutte contre l'esclavage moderne et la traite des personnes. Le pape a ramené 3 familles musulmanes syriennes pendant sa récente visite sur l'île grecque de Lesbos.
Et pour terminer la présidentielle aux États-Unis, l'écart s'est resserré entre la candidate démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump depuis que ce dernier semble assuré de remporter l'investiture de son parti pour la course à la présidentielle. C'est ce qu'indique le dernier sondage publié par CBS New York Times. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.